Écho de la bonne nouvelle. Écho de la bonne nouvelle, une émission d'évangélisation et d'édification chrétienne. Le message. Un homme était en prison à cause d'une faute tellement grave qu'il ne pouvait pas échapper à la condamnation à mort par le juge. Mais voici qu'étant en prison, il reçut un homme venant de loin, portant un message sur lequel il lut : Je t'ai envoyé mon fils pour payer ta rançon et t'adopter dans ma noble famille. Les réactions du prisonnier furent inattendues. C'est pour me tromper. Pourquoi s'intéresse-t-il à moi? Je ne comprends pas. À moins que ce ne soit pour m'avoir pour serviteur, comme esclave, qu'il m'envoie ce message. C'est un piège. Au fait, je préfère m'arranger avec le juge. N'est-il pas bon? J'ai le temps. D'ailleurs, je me suis habitué à mon état de prisonnier et j'ai trouvé bien de divertissements pour oublier le jour du jugement. Voilà une allégorie qui vous concerne, chers auditeurs. Savez-vous que vous êtes aussi coupable à cause de tous vos péchés devant Dieu, le juste juge? La Bible dit, « Il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. » Romains chapitre 3, verset 22. Elle parle de la juste sentence de Dieu que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. Romains chapitre 1 verset 32. Mais l'envoyé de Dieu est venu vers les hommes et pour eux, donc pour vous aussi. Le Fils bien-aimé de Dieu est venu dans le but de payer votre dette et d'être votre rançon en prenant votre place à la croix du calvaire. Si vous le recevez dans votre cœur, dans votre vie, il vous donne le droit d'être enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 2. C'est là un message d'amour venant de Dieu et destiné aux impies et aux pécheurs. Il vous est annoncé par l'Évangile, par la Bible. Lisez donc la Bible, acceptez le message de Dieu, ne le rejetez pas. C'est un message d'amour, de pardon, de paix, d'espérance, de gloire. N'endurcissez pas votre cœur, ne doutez pas. Abandonnez les raisonnements incrédules semblables à ceux exprimés dans notre allégorie. Acceptez celui qui vous a apporté le message de la part de Dieu, Jésus-Christ. Confessez-lui toute votre misère et vos péchés. Acceptez simplement le pardon de Dieu et goûtez la faveur qu'il vous accorde en faisant de vous son enfant. La prière. Nous vous prions de lire Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut et remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Cette prière concerne en premier lieu le peuple juif et son espérance terrestre, mais il est important pour nous les chrétiens d'en comprendre les principes valables pour toutes nos prières. La prière enseignée par le Seigneur comporte deux parties. La première partie exprime des désirs en rapport avec la gloire du Père. La deuxième lui présente nos besoins sur la terre. Nous comprenons ainsi que notre première pensée dans nos prières devrait être d'honorer et de glorifier le Père. Ne commençons-nous pas souvent nos prières en réclamant quelque chose pour nous-mêmes? Appliquons-nous donc plutôt à présenter d'abord à notre Père céleste des besoins qui ont sa gloire pour objectif. Notre Père, que veulent nous dire ces deux mots? Il nous parle de celui qui nous aime, de celui qui nous a donné la vie, qui est saint, qui est juste et à qui nous devons être soumis. Qui est dans les cieux? Cette expression nous fait comprendre qu'il est Dieu au-dessus de tout. N'oublions jamais en priant à qui nous parlons et restons dans l'attitude humble, soumise, confiante qui convient à la personne glorieuse à qui nous nous adressons. Que ton règne vienne. Aujourd'hui, le diable est le prince de ce monde. Il domine sur les hommes, les entraînant où il veut par leur convoitise. Il leur fait ainsi rejeter l'autorité du Père, les conduisant à la rébellion contre Dieu et à accomplir des actes outrageant la gloire du nom du Père. Le croyant aspire à un ordre des choses sur la terre où Satan ne sera plus le prince de ce monde, mais sera enfermé sans pouvoir nuire aux hommes, et où Christ règnera en puissance et en gloire. Ce sera réalisé pendant le millénium, mais sans attendre, le croyant chrétien a quitté sa soumission au diable et s'est soumis au Seigneur qui l'a racheté. Dans sa vie individuelle, de famille ou d'assemblée, il est heureux de reconnaître l'autorité de Dieu. Chers croyants, sommes-nous imprégnés de ces pensées dans nos prières? Que ta volonté soit faite dans le ciel aussi sur la terre. Nous savons que dans le ciel, tout s'accomplit selon la volonté du Père. Par contre, sur la terre, aujourd'hui, tout est en désobéissance à Dieu et en opposition à ce qu'il est. La corruption, la violence, l'insoumission, la haine, le mensonge, l'idolâtrie, l'adultère, l'ivrognerie, etc. manifestent que la volonté de Dieu n'est pas faite. Le croyant souffre en face de cette constatation. Il soupire après cette nouvelle terre où la justice habite et où tout dira gloire à Dieu. La nouvelle nature du croyant aspire par le Saint-Esprit vers cet état de perfection. Nous, croyants, n'avons-nous pas à rechercher de tout notre cœur, dès aujourd'hui, à faire toujours et partout la volonté du Père? Cependant, la chair est encore en nous. C'est pourquoi nous avons besoin de beaucoup prier le Père pour qu'il nous aide à tenir dans la mort notre volonté charnelle, afin que la sienne et la sienne seule soit faite. confession et restauration. Le bonheur du croyant, c'est d'être en paix avec Dieu, d'être en communion permanente de pensée avec lui et de vivre dans la puissance du Saint-Esprit en témoin fidèle sur la terre en attendant le retour du Seigneur. Cependant, beaucoup de croyants n'expérimentent que très peu une telle vie et passent des jours, des semaines, des mois sans joie en Dieu. Quelle est la cause de ce triste état et quel en est le remède? La cause. Tout d'abord, un tel état est en général dû à des péchés tolérés qui s'accumulent sans être confessés. Le Saint-Esprit qui habite en nous est alors contristé. Il ne peut plus agir comme une puissance de vie en nous, mais il actionne notre conscience en nous montrant que nous avons péché. Le remède. C'est alors qu'il est urgent de nous humilier et de confesser nos péchés. Souvent, il y avait un autre « petit péché » entre guillemets qui a précédé la faute évidente. Il est bien nécessaire de nommer le péché par son nom. Par exemple, de dire « j'ai menti, j'ai volé » et de demander à Dieu qu'il nous montre ce qui en est la cause. Il faut juger le mauvais fruit, le péché, et la racine, c'est-à-dire la cause de ce péché. La première étape est donc la confession. Ensuite, il faut croire, après une réelle confession, que l'offense faite à Dieu et pas seulement aux hommes nous est pardonnée. Croyez ce que Dieu vous dit en 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Nous avons eu foi en la promesse de Dieu qui nous a lavé tous nos péchés à notre conversion. Pourquoi donc n'aurions-nous pas foi en ces paroles quand nous en confessons un seul? Dieu est fidèle envers son Fils en nous pardonnant un péché confessé. Mais il est aussi juste de le faire à cause de l'œuvre expiatoire de son bien-aimé. Le sang de Christ purifie de tout péché. La deuxième étape est donc la foi en Dieu qui pardonne. La restauration. Enfin, quand le pardon de Dieu nous est donné, nous pouvons à nouveau jouir de la communion avec Dieu et redevenir des témoins vivants par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Qu'il est important de confesser puis de croire la déclaration de Dieu pour goûter la communion rétablie. N'acceptons jamais d'avoir une vie spirituelle étouffée par le péché. Le Seigneur nous a laissés sur la terre pour être ses représentants, ses ambassadeurs, manifestant la vie et la joie divine. Connaissez-vous cette joie en Dieu? Ou bien y a-t-il quelque chose qui pèse sur votre conscience? L'orgueil, notre ennemi. Apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur. Matthieu, chapitre 11, verset 29. De tous les maux qui nous assaillent, l'orgueil est le plus grand et c'est celui de tous nos ennemis qui meurt le plus lentement et avec le plus de peine. Dieu hait le péché par-dessus tout parce que l'orgueil donne à l'homme la place qui appartient à celui qui est dans les cieux, exalté au-dessus de tout. L'orgueil intercepte la communion avec Dieu et attire ses châtiments, car Dieu résiste aux orgueils. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Les lettres aux sept églises. Lire Apocalypse chapitre 2 et 3. Dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, nous voyons que sept assemblées d'Asie mineure, actuellement la Turquie, ont chacune reçu une lettre de la part du Seigneur. Il exprime dans chaque lettre, avec son discernement parfait, ce qu'il approuve et ce qu'il désapprouve quant à l'état spirituel réel de ces assemblées. Les états spirituels ainsi décrits dans les sept lettres représentent tous les états caractéristiques des églises locales dans le monde entier. De cette façon, le Seigneur pourrait prendre une de ces lettres et l'envoyer à votre assemblée locale, et les exhortations et les reproches s'appliqueraient à elle. C'est pourquoi, en lisant ces sept lettres, il faut se poser la question, laquelle de ces sept lettres s'applique le mieux à l'assemblée où je me trouve? Par exemple, l'assemblée est-elle comme l'assemblée à Éphèse, en bon état extérieurement, mais ayant cependant perdu son premier amour? Ou est-elle comme celle de Smyrne, une assemblée persécutée, à laquelle il n'est fait aucun reproche, mais seulement l'exhortation d'être fidèle jusqu'à la mort? Ou même est-elle comme celle de Pergame où le mal moral et doctrinal n'était pas rejeté? Est-elle comme celle de Thyatire où le mal est établi et même domine? Est-elle comme celle de Sardes qui prétend avoir la vie spirituelle mais où le Seigneur constate, lui, la mort spirituelle? Oh, si elle était comme celle à Philadelphie, qui s'attache à garder la parole et à ne pas renier le nom du Seigneur Jésus et à laquelle il n'est fait aucun reproche. Souhaitons-nous que notre assemblée ne soit pas dans le même état que l'assemblée à Laodicée qui, pleine de prétentions et se croyant riche en connaissances, était tiède dans ses affections, ni froide, ni bouillante. Le Seigneur la vomira finalement de sa bouche. Si nous avons des oreilles qui écoutent ce que l'Esprit dit aux assemblées, et si en conséquence nous comprenons que notre assemblée locale est dans un de ces mauvais états précisés dans une de ces lettres, que devons-nous faire? Devons-nous nous efforcer de faire mieux? Ce n'est pas ainsi qu'il faut commencer. Le bon chemin est d'abord de nous repentir collectivement en jugeant ce qui nous a conduit à un tel état. Cette repentance ne peut être acceptée par le Seigneur que si elle est sincère et profonde dans les cœurs. Elle s'exprime, par exemple, par une réunion de prière où nous confessons notre état en sa présence. Ensuite seulement, il est possible de crier au Seigneur pour qu'il nous aide à changer effectivement, pour vivre par la puissance du Saint-Esprit une vie collective particulièrement zélée et à la gloire du Seigneur. Celui qui s'engage ainsi totalement à suivre le Seigneur est appelé « celui qui vaincra » et il est encouragé par la promesse d'une récompense. Cette récompense lui sera donnée par le Seigneur lui-même et elle sera en rapport avec ce en quoi il aura été fidèle. C'était Écho de la bonne nouvelle, une émission d'évangélisation et d'édification chrétienne. Voici notre adresse. Écho de la bonne nouvelle. 01 Boîte postale 832 Lomé, Togo. Courriel maison des traités @yahoo.fr.